Dieu dans un merveilleux passage qui se trouve dans le psaume 103. Psaume 103, donc, c'est un psaume de David. Et là, nous lisons à partir du verset premier des paroles qui sont bien connues, je pense, de plusieurs, mais qui méritent encore et toujours d'être sondées. Psaume 103, verset premier. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et nous arrêterons là, nous relisons. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Spurgeon faisait remarquer que pour rendre la joie aux chrétiens, Dieu n'a pas besoin de faire une chose nouvelle. Et il disait, s'ils attisent les cendres du passé par la prière, ils trouveront du feu et de la lumière pour le présent. Et s'ils se tournent vers le livre de la vérité et le trône de la grâce, leur flambeau brillera autant qu'auparavant. Souvenons-nous, disait-il, de la bonté du Seigneur, et repassons dans nos cœurs, dans notre cœur, les manifestations de sa grâce. Ouvrons le volume du souvenir, et qui est si abondamment illustré de manifestations de sa bonté, et nous retrouverons toute notre joie de vivre. Amen. Et là encore, David est certainement, de ce point de vue-là, le plus exemplaire pour nous. D'une façon générale, d'ailleurs, nous pouvons voir que parmi tous les saints dont la vie nous est décrite dans les Écritures, c'est probablement David qui présente le caractère le plus frappant, le plus divers et le plus instructif. Dans l'histoire de sa vie, nous découvrons des épreuves et des tentations que nous ne trouvons pas habituellement dans celles des autres saints du passé. Et cela laisse entendre que nous avons là un type, une image, donc une annonce de notre Seigneur, et ceci d'une façon très diverse et très générale. David connaissait les épreuves traversées par des hommes de toutes conditions. En tant que roi, il savait parfaitement quelles difficultés connaissent les monarques. En tant que berger, puisqu'il avait été berger, il avait connu les épreuves des paysans, des gens simples de la campagne. En tant que vagabond, en fuite, vivant dans les cavernes d'En-Gedi, il était à même de comprendre le sort des sans-abri. Les capitaines ont beaucoup de moments difficiles, et David le savait, c'est comme ça qu'il a découvert par exemple que les fils de Tseruja étaient trop durs pour lui, et le psalmiste avait aussi été mis à l'épreuve par ses amis, rappelez-vous comment son conseiller Achitophel l'avait abandonné, et il se plaint en disant « Celui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi », mais ses pires ennemis, eh bien, ils se trouvaient dans sa propre maison. Parce que ce sont ses enfants qui ont été l'objet de ses plus grandes souffrances, de ses plus grandes afflictions. Donc les tentations qui étaient suscitées par la pauvreté, par la richesse, par l'honneur et les reproches, la santé et la faiblesse ont toutes essayé d'exercer leur pouvoir sur lui. Il a connu des tentations extérieures qui auraient pu troubler sa paix, des tentations intérieures qui auraient pu gâcher sa joie. David, quelque part, n'échappait à une épreuve que pour se retrouver dans une autre. Et à peine sortait-il d'un temps d'abattement, d'un temps de tension, qu'il replongeait dans d'autres profondeurs, et les vagues de Dieu roulaient encore sur lui. Et c'est sans doute pour ça que les psaumes de David font les délices de tous les chrétiens. Quelle que soit notre humeur, que nous connaissions l'extase ou que nous connaissions la dépression, David a parfaitement décrit nos émotions. C'est toujours impressionnant, je dirais quelque part c'est un expert incomparable du cœur humain. Pourquoi ? Parce qu'il a été formé à la meilleure des écoles, qui est celle de l'expérience sincère et personnelle avec Dieu. Hein, voilà. Et comme nous sommes formés à la même école, nous aussi, eh bien, au fur et à mesure que nous croissons dans la grâce, que nous avançons en âge, nous apprécions de plus en plus les psaumes de David et nous les considérons vraiment comme de verts pâturages. Alors, mon âme, que l'expérience de David t'encourage et te fortifie aujourd'hui. Amen. Voilà. Arrivons-en à notre texte qui nous donne le grand secret de la bénédiction totale et complète de la part du Seigneur. Et ce secret, c'est celui de la louange à Dieu qui est accompagnée d'une profonde reconnaissance. Hein. Nous pouvons décrire cette bénédiction dans sa totalité. Nous avons 7 points qui reviennent dans cette bénédiction. Et le premier de ces points, c'est donc le plein pardon de tous nos péchés. Donc, quand il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, même iniquité même, hein, c'est même marqué iniquité, donc c'est encore particulièrement fort au niveau du péché. Et c'est vrai que quelle merveille d'avoir cette conviction, d'avoir cette assurance. Hein. Oh, heureux est celui dont la transgression est remise et dont les péchés sont pardonnés. Alléluia. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est dans Ésaïe, tout ça, les 2 derniers passages. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. C'est la pleine confession de nos péchés, de tous nos péchés. C'est le plein abandon, le rejet de tous nos péchés. C'est le fait de réaliser le sacrifice qui a permis le pardon de tous nos péchés et de comprendre de quel privilège il s'agit, donc, c'est le fait de le saisir avec gratitude et de rester continuellement dans la gratitude pour cela. C'est ce qui fait aussi que ce pardon est continuel pour nous, et qu'il demeure efficace chaque jour et à chaque instant, parce que c'est chaque jour et à chaque instant que nous avons besoin du pardon de Dieu. C'est une réalité, et c'est ainsi que nous pouvons avoir et garder la communion avec Dieu, étant continuellement purifiés par le précieux sang de Jésus. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir et garder l'assurance du salut dans notre cœur, et bien sûr la certitude et la joie que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, sont inscrits dans le ciel dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, première part de cette bénédiction, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Deuxième part, qui guérit toutes tes maladies. Quelle merveilleuse promesse! Et ça nous montre bien quel est le désir de Dieu dans ce domaine-là. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous avez dans les milieux évangéliques aussi, hein, certains qui disent que Dieu ne veut pas forcément guérir, hein, voilà, que les miracles de guérison ne sont plus pour aujourd'hui. Alors, il est vrai que si Dieu ne guérit pas toujours ou ne guérit pas tout de suite, c'est qu'il y a des raisons. Mais retenons quand même que le désir habituel de Dieu, c'est la guérison. C'est quand même clairement indiqué. Et en particulier la guérison de ses enfants, la guérison de ses fidèles. Et alors, il est vrai que la guérison peut être liée à la repentance, qu'elle peut être liée à la confession, à l'abandon de tel ou tel péché. Et il est remarquable, dans notre texte d'ailleurs, de constater que la proclamation de la guérison, hein, guérit toutes tes maladies, vient juste après la proclamation du plein pardon. Hein. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et c'est ce que nous retrouvons encore dans d'autres occasions. Ainsi, quand Jésus s'adresse au paralytique qui était au bord de la piscine depuis 38 ans, et qu'il le guérit, lui dit « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Hein. » Et quand il est question de l'onction d'huile pour les malades, en faveur des croyants, donc, et de ce qui doit l'accompagner, là, nous sommes dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 15, voilà ce qui est écrit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente, on peut dire aussi agissante du juste, a une grande efficacité. Alléluia. Voyons bien que ça va dans le même sens. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la maladie est automatiquement liée au péché et que la guérison est automatiquement liée à la confession du péché et à la repentance. Nous avons aussi bien des cas dans l'Écriture, par exemple, où ça peut être une attaque du diable. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Job. Rappelez-vous que Jésus a délivré cette femme qui était courbée depuis 18 ans, parce que c'était le diable, c'était un démon qui la tenait dans cette position-là. Ça peut être une faiblesse physique. Voici la femme à la perte de sang qui a touché le vêtement de Jésus par la foi. Ça peut être une maladie dont on est atteint, ça peut être une épreuve et j'en passe. Mais en tout cas, rappelons que la volonté de Dieu, c'est la guérison. Alors ça peut se faire instantanément, hein. Dis un mot, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, dit l'officier romain, pour son serviteur avec foi. Et que d'autres exemples dans l'Écriture et que de témoignages jusqu'à aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu, nous rappelant que dans ce domaine aussi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il arrive aussi que ce soit plus progressif, parce que là encore, eh bien, nous avons peut-être besoin d'apprendre des choses, dans un domaine ou dans un autre, hein. Peut-être que nous avons besoin d'apprendre à supporter avec foi, ou bien peut-être que nous avons besoin de nous attendre à Dieu avec espérance, ou bien est-ce que nous avons besoin peut-être de compter, d'apprendre à compter sur lui jour après jour, hein. Ou bien peut-être que nous avons besoin d'apprendre que le fait de mener une bataille après l'autre nous amène à la victoire dans la guerre, hein. Une guerre, ça ne se gagne pas toujours en une seule bataille. Peut-être nous avons besoin d'apprendre le fait de persévérer avec conviction et opiniâtreté. Peut-être que nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner entièrement entre ses mains. Hein, peut-être que nous avons besoin de réaliser ce qui est vraiment important, et de nous détacher de certaines choses secondaires et choses vaines, et d'autres raisons encore que Dieu connaît pour notre bien, et que donc il veut nous faire connaître expérimentalement. Amen. En tout cas, retenons la promesse ici proclamée avec assurance, c'est lui qui guérit toute ta part de la bénédiction, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Ah, il n'y a que lui, mes amis, qui puisse nous délivrer de la grande et terrible fosse de perdition, du grand abîme où iront les perdus. Hein, donc, et nous étions tous perdus, hein. Nous y allions tous, parce que large est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroit est le chemin. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est lui le Seigneur qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et mon âme, eh bien, bénis Dieu, avec une reconnaissance continuelle, bénis ce Sauveur qui t'a tiré de ce sort affreux qui t'attendait pour te mener dans le chemin de la vie. Alléluia. Et qui d'ailleurs continue à le faire. Et qui d'ailleurs continue à le faire parce que le chemin du salut, vous savez, il n'est pas toujours évident. Le chemin du salut, il est étroit et périlleux, bien souvent. Hein, il passe à certains moments juste sur la crête, entre deux précipices vertigineux, ou bien juste à flanc de falaise, vous savez, avec un tout petit sentier étroit, et puis d'un côté, vous avez d'impressionnants rochers en surplomb, et de l'autre côté, un abîme sans fond, et puis le chemin est glissant, et puis en plus, les ténèbres, et c'est là. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et non seulement cela, mais le Seigneur a été là pour nous garder par sa main sûre et pour nous accompagner lui-même de peur que notre pied ne trébuche. Et combien de fois déjà nous avons vécu qu'il nous rattrapait comme ça, hein ? Ça vous est pas arrivé, vous ? Combien de fois, hein ? Continuons à réaliser la promesse de notre texte, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Amen. C'est lui, en quatrième, qui te couronne de bonté. De couronne de bonté. La bonté de Dieu se manifeste envers tous les hommes. Et ça, de multiples façons. Hein. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Voilà. Et puis, au travers de cette création magnifique qu'il a mise à disposition des humains, pour voir ce qu'ils en font, voilà. Sans parler de la vie qu'il leur accorde, hein, et de la grande patience dont il use envers chacun, de la providence merveilleuse par laquelle il prend soin d'eux, sans même la plupart du temps qu'ils le réalisent, et sans même la plupart du temps qu'ils ne changent de leur rébellion, de leur contradiction, de leur endurcissement à son égard. Mais, voilà, c'est tout. Mais la bonté de Dieu se manifeste tout spécialement envers les croyants, envers les fidèles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que de promesses qui leur sont tout spécialement destinées. Combien le Seigneur veille particulièrement pour exécuter sa parole en leur faveur. Combien il use de patience et de support à leur égard. Combien il les conduit par le meilleur des chemins. Combien il a pour eux des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Combien il répand sur eux ses bénédictions dans toute la mesure de ce qu'ils peuvent porter, de tout de ce qu'ils peuvent supporter. Et même quand il est écrit qu'il te couronne de bonté, hein, c'est marqué, qu'il te couronne de bonté, ça veut dire qu'il veut nous faire régner encore par sa bonté, c'est-à-dire par Jésus-Christ seul. Amen. Et non seulement il nous couronne de bonté, ça c'est notre cinquième point, c'est lui qui te couronne de miséricorde, est-il dit. De miséricorde. La miséricorde, c'est un mot extraordinaire. C'est un merveilleux attribut de Dieu. Le grand Larousse du XXe siècle, en 6 volumes, nous parle d'abondance à ce sujet et nous rappelle que l'origine du mot, ça vient du latin miserere, qui veut dire avoir pitié, et c'est lié au latin cor ou cordis, qui veut dire du cœur, hein, c'est-à-dire la pitié qui vient du cœur. Et ce dictionnaire nous indique plusieurs choses intéressantes. Il nous dit qu'il s'agit d'un sentiment de pitié pour les misérables, ce que nous sommes tous devant Dieu, hein, et encore d'un sentiment de pitié pour les misères d'autrui, et il ajoute encore, il s'agit d'une vertu qui pousse à pardonner, et encore, il s'agit d'un pardon accordé par pure bonté, et encore, enfin, d'un attribut de Dieu par lequel il pardonne ceux qu'il pourrait punir. Voilà, voyez-vous. C'est intéressant comme définition, hein. C'est abondant, c'est vraiment, vraiment profond, donc. Et ça exprime bien que cette miséricorde divine dont il use en abondance, et c'est encore exprimé par ce mot qui te couronne de miséricorde. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Et puis, une chose encore que j'ai apprise là, c'est qu'autrefois, l'ancre principale d'un navire, et donc celle dans laquelle on plaçait le plus sa confiance pour tenir bon en cas de tempête, était appelée l'ancre de miséricorde. L'ancre de miséricorde. Pourquoi ? Eh bien parce que vous savez, quand vous êtes pris dans la tempête, surtout quand vous n'êtes pas trop loin d'une côte où il y a des récifs, et que la tempête est en train de drosser votre bateau vers les récifs, et puis que vous n'avez plus les moyens de réagir parce que, je ne sais pas, le vent est trop puissant, ou parce que votre voilure a déjà été bien abîmée, etc., alors la seule solution qui vous reste, si vous ne voulez pas mourir, parce que quand on arrive sur la côte dans les récifs, hein, vous savez, il n'y a pas grand monde qui reste dans une tempête, hein, et bien la seule solution qui reste, c'est de jeter les ancres, et en particulier la grande ancre, et puis que cette ancre s'accroche, et puis surtout qu'elle tienne dans la tempête. Hein. Et c'est pour ça qu'ils appelaient ça l'ancre de miséricorde, parce qu'il ne restait plus qu'à faire appel à la miséricorde de Dieu dans ces situations-là. C'est comme ça que ça se passait. Hein. Et ça, c'est un parallèle avec notre propre âme. L'ancre de notre âme, dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle pénètre au-delà du voile et qui nous maintient si solidement en lui, attachés à lui. Pourquoi ? Bien parce que lorsque nous faisons appel à cette miséricorde, nous savons qu'elle triomphe du jugement. Alléluia ! Et que nous puissions aussi, bien sûr, à notre tour, exercer la miséricorde envers ceux que Dieu place à notre portée et que nous puissions travailler aussi à leur salut par la miséricorde que nous manifestons. Amen, amen. Notre sixième partie de cette bénédiction, c'est quand il est marqué « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse ». C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alors voilà, bien sûr, aujourd'hui dans notre monde, on retient de la vieillesse le déclin, l'affaiblissement, la dépendance croissante, la douleur, l'usure et j'en passe. Toutes choses qu'on ne va pas nier, évidemment, mais qui d'une part sont destinés à nous rappeler que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, hein, et puis que d'autre part, ben, c'est destiné à nous inviter à nous préparer pour le ciel, nous préparer pour l'au-delà. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, hein, donc là. Mais d'autre part, il nous faut considérer avec joie ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, spécialement pour ceux qui ont engagé leur vie pour Christ avec fidélité quand ils arrivent dans leur grand âge. Hein ? Il veut nous rassasier de bien. Qu'est-ce qu'il veut nous accorder ? Il veut nous accorder de merveilleuses expériences, voilà. Et ces expériences qu'ils ont vécues, s'ils savent s'en souvenir, s'ils savent s'en rappeler, s'ils savent méditer dessus, s'ils savent y réfléchir, eh bien ça constitue un trésor de foi pour eux. Alléluia. Hein? Et puis, il y a aussi les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans différents domaines en réponse à leur persévérance et à leur fidélité. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le fait que déjà, ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé, en particulier s'ils ont semé avec persévérance depuis bien des années. Et puis, ils font l'expérience du secours particulier que Dieu leur donne jour après jour, sans jamais manquer, puisqu'ils ont appris à se confier en lui jour après jour. Et l'assurance ferme est de plus en plus affermie, de plus en plus établie, dont le Seigneur leur fait bénéficier. Je sais en qui j'ai cru, et qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est dans Romains 8, versets 38 et 39. Quel puissant désir de rassaser de bien notre vieillesse, il promet, il manifeste. Et quel encouragement à nous attacher à lui jusqu'au bout de notre course terrestre. Amen. Et puis, voici la sixième. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, on y revient, la vieillesse est une réalité, on l'a dit, avec des limitations, des infirmités physiques, mais même là, rappelons-le, nous pouvons expérimenter la fidélité de Dieu jour après jour pour soulager, pour apaiser, pour fortifier. Mais en ce qui concerne le plus important, c'est-à-dire l'homme intérieur, eh bien là, nous avons la belle confirmation de l'apôtre Paul qui nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. » 2 Corinthiens 4, verset 16. Et c'est vrai que plus on avance en âge quand on est avec le Seigneur, eh bien plus les choses importantes, les choses éternelles prennent du relief. Et plus les choses du monde, les choses passagères deviennent insignifiantes. Et plus on arrive à faire le tri entre ce qui est important et ce qui est annexe. Et plus on devient simple, mais je dirais de cette simplicité bénie que le Seigneur recommande à ceux qu'il veut faire entrer dans son royaume. Et moins on va perdre de temps avec les choses de la terre, et plus et mieux on va s'attacher aux celles d'en haut, et plus on va devenir des enfants, mais dans le bon sens du terme, donc, puisque le Seigneur fait en nous cette œuvre de rajeunissement spirituel, béni soit son nom. Amen. Si c'était quand même la septième. Voilà, ça fait rien. Voilà, on a fait le tour un petit peu, en survolant cet ensemble de sept merveilleuses promesses qui couvrent tous les besoins de notre vie, toutes les nécessités, toutes ses aspirations et bien plus encore. Amen. Mais souvenons-nous que la grande condition, et là nous y revenons au début de notre texte maintenant, pour en bénéficier pleinement, c'est cet esprit de reconnaissance et de louange qui s'exprime avec force. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, c'est un programme ça. C'est un programme ça. C'est un programme, mes amis. Hein. Donc, ça veut dire, ça veut dire que c'est une bénédiction qui vient depuis l'âme, depuis le fond de l'âme, depuis la totalité de notre âme. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, c'est quoi ? Tout ce qui est en moi, ça veut dire mon cœur, ça veut dire mon intelligence, ça veut dire ma mémoire, qu'elle bénisse l'Éternel, ça veut dire ma volonté, mes sentiments, ça veut dire mon raisonnement, ça veut dire mes affections profondes, ça veut dire mon imagination, ça veut dire mon ingéniosité. Hein, voyez ? Donc, de manière à le bénir abondamment, puissamment, d'une façon variée, d'une façon renouvelée, de plus en plus, de mieux en mieux. Une bénédiction qui n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà la grande clé. Voilà la grande clé. Pour être béni complètement, eh bien, rappelons-nous le plus totalement possible de ce que Dieu a fait pour nous. Il ne s'agit pas de dire, ben oui Seigneur, je te remercie pour ça, mais hop, c'est passé aux oubliettes là. Ah non, 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 non. Demandons à Dieu de réparer notre mémoire. On demande à Dieu de guérir notre corps. On demande à Dieu de faire un travail de réparation en nous. Notre mémoire aussi, vous savez, elle est malade. Notre mémoire aussi, elle est négative. Notre mémoire aussi, elle a besoin d'être rétablie et d'être remise dans de bonnes conditions. Demandons au Seigneur de ne pas toujours rester dans les généralités. De vouloir aussi, c'est vrai, n'ayons pas peur d'entrer dans les détails. N'ayons pas peur de rappeler les bontés, les grâces de Dieu l'une après l'autre, en méditant sur chacune d'elles. Vous allez découvrir, nous allons découvrir des choses quand on médite dessus. Oh, mais Dieu a fait de cette manière-là. Parce que, oui, parce qu'il voulait me faire comprendre ça. Et puis, il aurait pu faire autrement, mais il a fait comme ça. Et puis, on va s'émerveiller. N'hésitons pas à demander au Seigneur, donc, là encore, de rafraîchir notre mémoire et que, de cette manière-là, nous puissions méditer sur les choses. Un cœur reconnaissant sera toujours rempli de foi. Retenons ça. Un cœur reconnaissant sera toujours rempli de foi. La reconnaissance, ça mène toujours à fortifier la foi. Toujours, 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 frères et sœurs. Que nous puissions être ainsi et qu'ainsi les promesses du Seigneur puissent s'accomplir pleinement. Béni soit son nom. Amen. Amen. Te remercions pour ta grande grâce, notre Sauveur et notre Dieu. Te remercions pour tes excellents désirs. Nous te remercions pour ces intentions merveilleuses que tu as en faveur de tes enfants. Nous te remercions parce que nous avons encore dans ta parole des manifestations de ta bonté, de ton amour à notre égard, Seigneur notre Dieu. Oh, sois loué, sois glorifié. Tu nous as fermis en toi, Seigneur. Tu fortifies nos âmes, Seigneur. Tu guéris nos mémoires, Seigneur, de manière à ce que nous puissions nous souvenir de tes bontés et que nous puissions les mettre en évidence et que nous puissions t'en louer et t'en glorifier avec cette profonde reconnaissance. Merci Seigneur de grâce et de gloire. Amen Jésus.